Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour, merci les musiciens qui viennent de chanter Il faut si peu de choses pour embellir la vie. C'était un chant que Raphaël et Violette chantaient dans toutes les réunions où j'allais avec eux. Et ils sont restés mes amis jusqu'au bout. Ils sont partis maintenant. Les Osborne sont partis. J'ai l'impression que Bill et Joan Williams sont partis aussi. David Wilkerson est parti aussi. Bon, ben voilà. C'est comme ça. Quand j'étais gamin, on habitait Lausanne parce que moi je suis suisse d'origine. Et mes parents avaient décidé de construire une maison à Chèvres. Alors ils ont acheté un bout de terrain. À l'époque, il valait 5 francs suisses le mètre carré. Je ne sais pas si vous imaginez. Maintenant, ils vont. C'est une fortune. Et ils construisaient cette maison. Et puis, mon père était chauffeur-livreur dans un journal qui s'appelait à l'époque La Feuille d'Avis. La nuit, il travaillait dans un autre journal qui s'appelait La Tribune. Enfin, il s'est tué au travail. À 49 ans, il est décédé. Il s'est tué au travail. Alors là, on était à Chèvres et il n'y avait pas d'eau, évidemment, mais il y avait un voisin qui était au-dessus, qui s'appelait Monsieur Pache. Et ce Monsieur Pache voyait mon père transporter des jerricanes d'eau parce que mon père, il faisait ses parpaings lui-même pour construire la maison. Il mettait des planches et puis, bon, il coulait son béton. Il faisait les parpaings lui-même. Et ce monsieur Pache a vu ça, il a dit, écoutez, monsieur Janton, je vais vous prêter de l'eau. Oh, je veux pas que vous me la prêtiez, je vais vous la payer. Non, je vous la donne. Et tout. Donc ce monsieur Pache a donné l'eau pendant toute la construction de la maison. C'est gentil. Et puis, quand la maison était finie, les premières personnes qu'on a invitées, que mes parents ont invitées, c'est monsieur et madame Pache. Ils nous ont invités à la maison. Et puis, on n'avait jamais parlé vraiment avec eux pendant toute la construction de la maison, qui a quand même duré 4-5 ans, parce que c'était long. Mon père, il faisait tout seul. Il a juste demandé des copains pour faire les dalles et le toit. Mais autrement, il a tout fait tout seul. C'est un bosseur. Je crois que c'est lui qui m'a dégoûté du travail. Je dis ça pour rigoler, mais c'était un bosseur terrible. Donc, les Paches sont arrivés à la maison, puis on s'est présenté et il nous a dit qu'il était astrologue. Ah. Alors, mon père était très intéressé. Et il a dit, mais je peux aussi lire dans les mains, si vous voulez, je peux lire dans votre main, et je peux vous parler de votre passé, et de votre futur, si vous voulez. Alors mon père a dit, ah oui, moi je veux bien, il a tendu sa main, et mon père, je lui ai raconté sa vie, il a dit, voilà, vous avez été placé dans une famille où, parce qu'il y avait un problème dans la famille, vous avez été placé dans une famille, et l'homme était un pasteur, et il vous a dégoûté de Dieu, de la religion. Mon père était complètement soufflé. Comment il pouvait savoir ça? Enfin, il lui a raconté des tas de détails sur sa vie passée. Puis il a dit, vous voulez que je vous dise votre avenir maintenant? Puis mon père a dit, oui, bien sûr. Et puis, il lui a parlé de son avenir. Et puis, ensuite, Monsieur Pache a fait ça avec ma mère. Et puis ensuite, il a demandé à mes parents s'ils étaient d'accord qu'ils regardent aussi la main des enfants, c'est-à-dire mon frère Eric et puis moi. Puis mon père a dit oui, bien sûr. Alors quand c'est venu mon tour, Monsieur Pache, il regarde ma main et il dit « Oh, j'ai vu exactement la même main il y a 3 semaines. C'est un artiste français, je ne me rappelle plus son nom. Mais c'est un artiste à succès. » Je dis « Mais attendez, un artiste à succès français. » Alors j'ai couru dans ma chambre, j'étais chercher mes disques. J'ai dit « Mais c'est celui-là » Et il montre Claude François. Alors, il me dit « Vous êtes du mois de février ?» Je dis « Oui, du 5. » Il me dit « Oui, ben lui, il est du 1. Il est du 1er février. Et vous avez un sale caractère comme lui. » Ah, ça fait plaisir à entendre. Il dit non, vous êtes un perfectionniste, vous êtes un. Puis il commence à me dire mon caractère et tout. Et puis, c'était très troublant, c'était flatteur en même temps. Et il dit, je vois dans votre main que. C'est curieux, vous allez avoir une vie un petit peu comme lui, mais vous ne serez pas chanteur. Vous serez sur des estrades. Toute votre vie, vous aurez un public devant vous. Des fois, ça sera des publics énormes. Mais vous ne serez pas chanteur. Je vous vois mettre des pièces en or devant les gens. Et puis, vous les inviterez à venir les chercher en leur disant que c'est gratuit. Mais la plupart partiront en pensant qu'elles sont fausses. Il ne savait pas ce qu'il disait, cet homme. Mais il était en train de dire, vous voyez comment le diable connaît notre avenir. Hein? Et il a vu que je prêcherais l'évangile, cet homme, les pièces en or. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est de l'or éprouvé par le feu. Et c'est vrai que j'ai visité 70 pays par la suite, quand je me suis converti, j'ai prêché l'évangile, j'ai mis l'or et la parole de Dieu devant des milliers, des dizaines de milliers de personnes partout. Et beaucoup le refusaient parce qu'on disait c'est pas beau, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Et tout. Enfin, voilà. Et puis, les années ont passé et ce monsieur Pache a dit, écoutez, votre fils, il est là, Michel, il m'intéresse, il a quelque chose, il a un avenir, j'aimerais bien, puis je vois qu'il a une sensibilité aux choses de l'esprit, j'aimerais bien l'instruire, est-ce que vous permettez? Puis mon père, tout flatté, lui dit, mais bien sûr. Alors toutes les semaines, je montais la colline, j'allais chez monsieur Pache, et puis il m'instruisait. Alors il avait, on rentrait là-dedans, ça puait la pisse de chat, il avait au moins 14 chats, ça puait. Et puis lui, il avait une bonne bouille, monsieur Pache. C'est un rondouillard avec une bonne bouille. Mais elle me faisait peur, madame Pache. Elle me faisait peur. Elle avait vraiment une tête de sorcière. Mais elle n'était pas méchante, hein. Mais elle me faisait peur. Et il m'instruisait au sujet des signes, au sujet de. Il avait des gros bouquins, des grimoires, des machins, tout. Et moi, j'étais passionné. Avec mon frère, on avait décidé de construire, on avait un petit bois dans la propriété où nous habitions, à Chèvres, et puis avec mon frère, dans notre chambre, on avait discuté, on s'était dit, on devrait construire une petite maison là pour passer l'été, juste nous, avec les copains, les copines. Et le lendemain, M. Pache me dit, il faut pas que tu fasses ça, tu auras un accident si tu construis quelque chose, une maison, tu auras un accident, faut pas le faire. Il savait tenir, mais c'était incroyable. Il avait une renommée, ce type-là. Il était connu partout, partout. Mais moi, je savais pas, mais en tout cas, j'étais très impressionné. Et les années ont passé, et en 68, j'étais avec mes copains. Il y avait Charlie Muller, qui est toujours un ami, qui est un frère aussi, avec sa femme. Salut Charlie, salut Aurore. Et il y avait Claire Lise, ma petite fiancée insupportable de l'époque. Et puis il y avait surtout Daniel Siegenthal, qui était mon meilleur copain, comme je disais. Et un jour, à midi, Daniel Siegenthal vient avec son bogey, c'est-à-dire son vélo moteur. Il me dit, Michel, c'est incroyable, j'ai entendu un gitan à la radio, il disait que ceci, cela, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, quoi qu'il demande, je le fais, tout. Il est avide, il faut qu'on aille le voir. Il a dit que il voulait aller en Belgique, mais que Dieu lui a dit d'aller en Suisse parce qu'il y a un peuple nombreux en Suisse. Alors, il est là. J'ai dit, bon, moi je suis suisse, je vais y aller, on verra bien. Et on est allé le voir. Alors on est arrivé, je vous raccourcis, hein, on est arrivé le soir dans cette réunion. Il y avait à peu près 600 personnes, 300 personnes d'un côté, 300 personnes de l'autre. Quand on est arrivé, il n'y avait plus de place. On s'est assis sur une table dans le fond. Et puis on a attendu que ça se passe. Et tout à coup, Raphaël est arrivé devant le micro. D'abord, ils ont chanté. Alors c'était, waouh, c'était du blues, c'était de la musique tzigane, c'était. Moi, j'étais complètement conquis, c'était fantastique. Et Raphaël, il avait un peu la voix d'Henri Salvador. Et j'aime beaucoup Henri Salvador. Et voilà que Raphaël arrive devant le micro, puis dit « Gloire à moi! » Puis tout le monde hurle « Non, gloire à Dieu! » Je dis « Oh là là, qu'est-ce que cette bande de fous? Qu'est-ce que cette bande de fous? » On est tombé. Et tout ce qu'il disait, tout le monde criait Amen, Alléluia, et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est plus une ambiance de foot, enfin pas du foot comme hier soir à Paris, hein. C'était pas de la racaille. C'était des chrétiens, mais des chrétiens qui se manifestaient, qui manifestaient leur joie. Et bon, on est resté. Je voulais partir, mais finalement on est resté parce que le chanson me plaisait bien. Puis Raphaël, il me plaisait bien. Il avait une bonne bouille aussi. Il était franc. Et il a prêché. Et tout à coup, il s'arrête. Il me pointe du doigt. Je vous promets, il n'y a personne qui me connaissait dans cette salle. À part ma petite fiancée insupportable, Charlie et Dani, mais on ne s'était pas quittés, on était restés ensemble. Il n'y a personne qui me connaissait dans cette salle. Et Raphaël, qui avait le don de révélation, mais ça je ne savais pas, il me pointe du doigt et me dit, Michel, viens ici. Alors, j'étais surpris, je vais devant. Et puis il me dit, tu vas chez un astrologue. Je dis, comment vous savez ça? Il me dit, je peux te dire son nom, il est inscrit en noir sur ton front. Il s'appelle Pache. Oh, je suis soufflé. Il me dit, tu sais que l'astrologie, c'est diabolique? Je dis, ah bon? Et comme lui, il ne savait pas lire, Raphaël, c'est un gitan, il ne savait pas lire, il n'avait jamais été à l'école, il a appelé un des pasteurs qui était derrière lui sur l'estrade, et puis il lui a demandé de lire un passage dans la Bible. Alors le pasteur a lu dans Deutéronome 18-10, où il est écrit. C'est Dieu qui parle à Israël en lui disant, quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, ils venaient de sortir d'Égypte où ils avaient été esclaves et Dieu leur donnait Israël, qui est un pays qui a été donné à ce peuple-là, qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations de devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser, écoute les astrologues et les devins, mais toi, à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne permet pas. Il me dit, tu fais quoi alors, bien, Michel? Je dis, ben, si c'est dans la Bible, moi j'arrête, hein. Et il m'a dit, c'est bien. Il m'a imposé les mains. Il a dit, au nom de Jésus, je te délivre de toutes ces puissances démoniaques, d'astrologie, de divination. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Vous savez, à l'époque, c'était pas la mode de se rouler par terre, donc je suis pas tombé par terre, mais j'ai vraiment été délivré. Quand je suis sorti de là, je savais plus la différence entre un verseau, un taureau, un bélier, alors que j'avais appris ça pendant des années, hein. Mon cerveau même était lavé de toutes ces saletés. Donc voilà, et j'ai dit à Raphaël, il faut que j'aille dire ça, monsieur Pache. Je me dis, non, non, non. Attends d'être affermi dans la foi pour aller lui parler, il est très fort ce monsieur. Vas-y, pas maintenant, tu y vas t'avoir. Vas-y, pas maintenant. Alors j'ai obéi, j'ai pas été. Et puis, il a fait un appel, il a demandé qui c'est qui voulait se convertir, qui c'est qui voulait donner sa vie à Jésus-Christ. Alors évidemment, moi le premier, il a demandé de s'avancer, je me suis avancé, j'étais le premier tout devant. Vous savez, il y a quelques années, je suis retourné dans cette salle. Je suis descendu les escaliers, Place Chaudron, c'est ça, la place Chaudron. Il y a un cinéma là. Et puis, il y a des escaliers, il y a une salle, la même odeur. Ça sent toujours la même odeur. Des années après, ça sent la même odeur. La salle, elle n'a pas changé. Si, ils ont repeint un peu, mais c'est les mêmes couleurs, c'est pareil, c'est pareil, pareil. Je me suis retrouvé là. C'était vraiment, vraiment étonnant de voir ça. Une fois qu'il a prié pour notre conversion, on était une bonne soixantaine quand même à s'être donné à Jésus, et il y a un bonhomme qui est venu vers moi qui s'appelait Fritz Blaser, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais il habitait Clarens, et puis Raphaël lui a demandé de s'occuper de moi pour me diriger sur une église. Alors voilà. Et puis ensuite, il a dit, bon, ben ça, c'était la plus belle partie de la réunion. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va prier pour les malades. Que les malades s'approchent. Je vais leur imposer les mains au nom de Jésus. Jésus dit, Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris alors que les malades s'approchent. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et la première personne qui s'est avancée, c'est une femme qui portait son gamin, qui devait avoir la polio, qui avait les bras tout retournés en arrière. Il était complètement difforme, ce gamin. Et les jambes retournées dans le dos. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et Raphaël la regarde et il dit, moi, je peux rien faire pour votre gamin. Puis moi, je voulais me convertir, hein, mais tout de suite, j'ai eu une mauvaise pensée. J'ai dit, quel salaud, ce type. Faire croire des choses comme ça aux gens, puis quand ils se trouvent devant un cas, c'est pas un beau petit bobo dedans, là. Hein, c'est... Et il dit, mais je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose. Je me suis dit, il va appeler les pingouins qui sont derrière, c'est-à-dire les passeurs. Il dit, c'est Jésus, vous croyez en Jésus? Puis elle se met à pleurer. Elle dit, je suis catholique. Et Raphaël lui dit, je m'en fous, puis Dieu aussi, il s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que vous croyez en sa parole, est-ce que vous la lisez, est-ce que vous la mettez en pratique. Et elle continue à pleurer, elle dit, ben, j'ai levé la main, je me suis approché tout à l'heure quand vous avez fait l'appel. Il dit, bon, ben, ça va, ça suffit, c'est bien. Allez, posez votre gamin. Alors, elle pose son gamin par terre. Tout un paquet de un pauvre gamin. Il lui dit, allez dans l'allée. Là. Alors elle va, et c'est comme si elle venait face à moi. Parce que j'étais assis sur cette table au fond, et je la voyais arriver vers moi. Elle avait les épaules complètement affaissées, elle pleurait. Je me disais, mais quelle horreur, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et il a mis un genou par terre, s'est baissé. Il a posé sa main sur le gamin. Il a dit, esprit de paralysie, tu vas sortir de là maintenant? Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Amen. Il prend le gamin, il le jette en l'air. Le gamin, il s'est déplié. Il s'est retrouvé sur ses deux pieds et il a couru dans les bras de sa mère. J'ai vu ça. J'étais là. Je l'ai vu. J'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. À ce moment-là, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Le soir, on est rentré, il me semblait que je marchais à un mètre du sol. On savait pas quoi dire avec les copains, la copine, on savait pas quoi dire. On a pris le train, on est rentré. Le lendemain, j'ai passé des coups de fil, on est allé. 100 personnes j'ai emmené. En 3 jours, 100 personnes se sont converties, dont ma mère, mon frère. On s'est convertis, sont convertis. Ma mère, elle avait une lésion au cœur. Et puis, il y a une dame qui lui dit... Vous savez, moi, c'est formidable, j'avais telle et telle maladie, je sais plus quoi, et Jésus m'a guéri. Puis ma mère dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être malade pour pouvoir être guéri par Jésus. Puis elle dit, mais folle que je suis, j'ai une lésion au cœur. Elle se faisait des piqûres chaque mois parce qu'elle avait une dépression nerveuse. Elle va à l'imposition des mains, guérie. Mais instantanément, guérie. C'était phénoménal. Raphaël, il priait pour les aveugles, les aveugles voyaient. Il priait pour les paralytiques, il les faisait courir autour de la salle avec les béquilles comme ça, et les familles couraient derrière avec les... Tout le monde criait Alléluia, tout le monde était debout sur les chaises. Moi, j'étais debout sur la table, je gueulais Alléluia, je savais même pas ce que ça voulait dire. Mais qu'est-ce que j'étais pris dans cette ambiance de j'étais devenu comme eux, quoi. Mais il y avait de quoi, il y avait vraiment de quoi. Hein. Et puis... Le troisième soir arrive, et voilà qu'on était dans cette effervescence, il y avait tous les soirs des guérisons, tous les soirs des nouvelles personnes, la salle était trop petite, il y avait du monde partout qui était debout dans tous les coins, et puis Raphaël prie pour les paralytiques se mettent à marcher, et puis ma petite copine, ma Claire-Lise de l'époque, elle me tape sur l'épaule, elle dit « Michel, il y a ce monsieur là, il n'y a personne qui peut l'emmener, il y avait un monsieur devant nous avec 2 béquilles ». Je dis, elle me dit, on va l'emmener. Je dis, ben ouais, si tu veux, d'accord. Alors j'essaie de le soulever, mais moi à l'époque, j'étais musclé comme un tube de dentifrice. Je pouvais pas le porter, il était très gros. Et en plus, il avait la maladie de Parkinson. Il tremblait. Je dis, si on essaie de l'emmener, on va être bousculé par tous les gens qui sont là dans un désordre inimaginable. Je dis, on va le laisser tomber, puis ça va être pire. Alors elle me regarde, elle dit, mais le gitan, il a dit, ceux qui croient, ils imposent les mains aux malades et les malades sont guéris, qu'est-ce que t'attends? Ça m'a paru logique. J'ai mis mes mains sur cet homme, j'ai dit, au nom de Jésus, par esprit de paralysie, quitte cet homme maintenant, au nom de Jésus. Et j'ai arraché ses béquilles, et le bonhomme, il a fait, il a commencé à vaciller, heureusement, il y avait une colonne qui était là. J'ai pris des photos de la colonne. Il faudrait que je vous mette ça sur Révélation Bible, que vous voyez tout ça. Il s'est affalé sur la colonne, et mais moi, ça m'a vexé. Alors évidemment, je n'ai pas formulé la pensée, mais ma pensée, c'était pourquoi est-ce que Dieu exauce ce gitan là-bas qui a le nez au milieu de la figure comme moi, et moi, il ne m'exauce pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai de différent ? Qu'est-ce que j'ai de moins que lui ? Je suis croyant, comme lui. Alors pourquoi ? Ça a décuplé mes forces, j'ai pris le bonhomme à bras le corps, j'ai foutu des coups de pied aux gens pour qu'ils se barrent de mon chemin, j'ai fait ouvrir la porte. Déjà à l'époque, je sortais des églises. J'ai fait ouvrir la porte, je l'ai sorti dehors, je l'ai mis devant les escaliers, j'ai dit Jésus. Puis il y a des gens qui suivaient derrière pour voir qu'est-ce que je faisais. Ce grand gaillard tout déglingué, j'avais ma cheville tout débraillée, j'étais comme un jeune homme de 18 ans des années 60, quoi. Un yéyé. Et j'ai mis le bonhomme devant les escaliers, j'ai dit Jésus, j'ai fait ce que tu as dit de faire, d'imposer les mains aux malades en ton nom, je l'ai fait. Maintenant, j'ai fait mon boulot, fais le tien. Et je l'ai poussé. Et il était guéri. Il descend les escaliers, il les remonte, il descend les escaliers, il les remonte, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, on pleurait et tout. Mais c'est qu'il y a des gens qui ont couru devant, qui ont dit à Raphaël, tu sais, le jeune là qui faisait l'astrologie, il vient de guérir un paralytique, etc. Appelez-le-moi. Alors, j'étais devant, Raphaël, il m'a pas demandé si j'étais baptisé dans le Saint-Esprit ou si j'étais baptisé dans l'eau. Il a dit, écoute Michel, t'as reçu de Dieu, c'est bien. Alors, toi tu t'occupes de cette file-là, et moi je m'occupe de cette file-là, parce qu'il y avait beaucoup de malades. Il dit, on va passer des heures si je m'occupe de chaque personne, alors tu prends ceux-là, moi je prends ceux-là. Et j'ai commencé à prier pour les malades ce soir-là, et je ne me rappelle plus honnêtement si c'était un homme ou une femme, mais c'était une personne qui était aveugle, oui, il y a quand même des années, hein, c'était en 68, et je ne me rappelle plus si c'était un homme ou une femme, et je prie, alors je fais comme Raphaël. Je mets de la salive sur mes pouces, je mets mes pouces sur ses yeux, puis je dis « Esprit de cécité, quitte ce corps ». Je ne savais même pas si ça voulait dire « cécité ». Mais j'avais entendu Raphaël dire « cécité hein, », j'ai dit « cécité ». Et puis j'enlève mes pouces et je dis « Vous me voyez ?» La personne me dit « Oui, mademoiselle ». Je dis « Non, vous ne me voyez pas. Je recommence au nom de Jésus ». Et là, elle se m'a hurlé « T'es guéri ». Complètement guéri. Voilà. Et il y en a eu plein, des paralytiques, des sourds, et tout. C'est comme ça que ça a commencé. Et des années après, ça s'est jamais arrêté. Et ils m'ont placé dans une église. C'était l'église pentecôtiste de Lausanne. Et c'était le pasteur Billettre qui venait de Morges. Il était pharmacien, c'est un gentil monsieur spirituel, et vraiment bien, un gentil monsieur, son épouse et tout. Et il était pharmacien à Morges et il venait tous les dimanches pour faire le culte là, parce qu'il n'y avait pas de pasteur dans cette église, et il prêchait. Et puis quand il a vu comment Dieu me bénissait, comment les gens lui racontaient les miracles, les conversions, parce que j'ai emmené plein de gens à Jésus, il m'a dit, bon ben écoute, viens à Morges un de ces soirs et puis c'est toi qui vas prêcher. Alors j'ai prêché et je me rappelle toujours ce que j'ai prêché. Je vais vous lire le passage que j'avais choisi. J'ai prié au moins 2 heures avant parce que je voulais faire les choses sérieusement. C'était Matthieu 10, 27. Alors Matthieu 10, 27, ça dit... C'est Jésus qui parle et qui dit « Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qu'on vous dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Eh bien, c'est ce que j'ai toujours fait. Et j'ai exhorté les gens là à faire ça, qu'il fallait être des témoins, qu'il fallait parler de Jésus, qu'il ne fallait pas garder les choses secrètes. Et le pasteur Billette, ça lui a beaucoup plu. Alors après, il m'a fait prêcher à Lausanne. Puis après, il m'a fait prêcher dans d'autres coins, dans le Valais. Je sais même plus où exactement. C'était une époque vraiment fantastique. Et puis, voilà qu'il y a un nouveau pasteur qui est arrivé de France et qui s'appelait Rachid Bouchami. Alors, moi, j'avais jamais vu d'arabe de ma vie parce qu'en Suisse, il n'y en avait pas. À l'époque, maintenant il y en a, mais à l'époque il n'y en avait pas. Donc Rachid Bouchami, c'était vraiment un bon vivant. Il pouvait pas cacher qu'il était arabe. Hein. Vraiment, Il était très sympathique. Sa femme était une genevoise, une bonne grosse bourgeoise genevoise. Et puis, qui chantait. Mais alors, avant de chanter, elle allait dans la petite pièce à côté, puis elle s'envoyait un verre de rhum. Elle disait, ça m'éclaircit la voix. C'est marrant. Et puis, bon, il y avait des guérisons, il me faisait prêcher et il me faisait prier pour les malades. Alors, il y avait beaucoup de guérisons, mais lui, il n'avait pas grand-chose, alors il était un petit peu jaloux. Et puis, il m'a dit, mais Michel, ça serait bien que tu fasses une école biblique. Alors, il m'a envoyé à l'école biblique et j'étais à l'école biblique des choux. Alors, l'école biblique des choux, c'était l'école biblique des gitans. Évidemment, je n'allais pas aller ailleurs puisque je m'étais converti avec les gitans. Alors, c'était dans le Loiret, c'est ça? Le château existe toujours, j'avais voulu l'acheter, mais c'était dans un état épouvantable. Les gitans l'avaient vendu en pièces détachées, c'était affreux. Et j'ai fait connaissance avec le pasteur Le Cossec, qui était le fondateur de la mission, on est resté des amis jusqu'au bout. C'était un homme formidable, c'est lui qui a béni notre mariage. Et c'est sur le terrain de l'école biblique qu'un jour, dans la caravane de la sœur Camélia, qui était la belle-mère de Raphaël, elle est sur la photo que j'ai mise sur Révélation Bible, dans la caravane de Camélia, je vois une femme à genoux en train de gratter le plancher. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle se retourne, c'était Michou. Je savais pas que ça allait être ma femme, mais tout de suite j'ai trouvé qu'elle était très belle. Et je dis, ouh là là, celle-là je la veux. En plus, elle aide les personnes âgées, c'est une femme bien. Et Camélia, elle a toute une vie. Vous savez, Camélia, c'était une femme qui avait du nez. J'y disais, t'as un grand nez. Elle disait, un beau clocher ne défigure pas son village. Alors j'y tirais sur son nez. Et puis, c'était rigolo. On était très libres. C'était fantastique. Alors, elle avait vu que j'avais quelque chose pour Michou. Elle me dit, tu prends pas la Michou, hein. Elle est pas pour toi. T'es trop charnel. Si tu prends la Michou, elle va venir charnel comme toi. Parce que moi, j'aimais le rock'n'roll, j'aimais tout ça. J'aimais aller au cinéma, c'est interdit. Bon, voilà. C'est comme ça à l'époque, hein. Donc, l'école biblique. Et puis, ensuite, je rentre chez Bouchami. Et Bouchami, il parle avec des Américains qui sont venus le voir en lui disant, mais, Ce jeune frère, il faut pas le laisser là, il va mourir avec toutes ses grand-mères. C'était 150 grand-mères et grand-pères dans cette église. Hein. Il y avait très peu de jeunes, il y avait deux, trois, des gamins, mais la plupart c'était des... Alors, il y a une œuvre qui s'ouvre à Paris, qui s'appelle Teen Challenge, il faut qu'il aille bosser là-bas, il va être avec des jeunes, et il va pouvoir exercer son don, et... Ça va être bien pour lui. Et Rachid Bouchami était tout content de se débarrasser de moi parce qu'il était un peu jaloux. Il est décédé maintenant, le pauvre. Mais bon, alors, me voilà parti à Teen Challenge. Et puis, là, c'était Bill William et Joanne William qui étaient les directeurs. C'était des Américains. On est restés amis jusqu'au bout. Et je crois qu'ils sont décédés maintenant parce qu'ils ne répondent plus aux courriers, rien du tout. J'ai essayé, mais j'arrive plus à les atteindre. Mais c'était des gens formidables. Et puis, entre-temps, on s'est mariés avec la Michou. D'ailleurs, on va fêter nos 52 ans de mariage dans quelques jours. Et puis, on a perdu notre premier bébé. C'était une erreur médicale. Un médecin qui a fait une erreur. Et on a perdu le bébé. C'était terrible. Et c'était une épreuve terrible. Et puis, un jour, on était à Vichy, je ne sais plus pourquoi, on était assis à une table en train de prendre notre petit déjeuner dans un hôtel, et tout d'un coup j'entends quelqu'un... Ah oui, attendez, non, je saute. On était donc à Teen Challenge, et quelqu'un dit, est-ce que quelqu'un veut apporter ce trousseau de clés rue Legendre? Il y a Osborne, c'est des clés pour Osborne. Je dis, Osborne, T.N. Osborne? Il dit, oui. Ah, je dis, moi j'y vais, parce que j'avais lu les livres d'Osborne. J'avais écouté des bandes rondes, à l'époque c'était des bandes rondes qu'on écoutait, il n'y avait pas de cassette encore. Et c'était mon ami Fritz Blaser qui me les avait filés. Donc j'arrive rue Legendre, je me trouve face à Osborne, et il était par terre à genoux en train de coller des photos sur des planches, enfin, il se lève gentiment, il me salue et tout, et moi j'étais tellement ému, déjà par la perte de l'enfant, et puis ensuite de voir Osborne en face, j'avais les... Comment dire, bon, je suis émotif, hein, donc je fonds en larmes, et il me dit, mais qu'est-ce que vous avez, frère? Et Je lui dis, bon, là, je viens de perdre mon fils. Alors il m'a consolé, il m'a dit, frère, il faut que vous continuiez à prêcher l'évangile et à prier pour les malades. Vous aurez des tas de fils partout dans le monde. Il faut que vous évangélisiez, que vous ne vous arrêtiez pas, que vous ne vous laissiez pas avoir par le chagrin. Alors j'ai pris ça, je suis rentré à la maison, j'ai dit ça à Michou, j'ai dit, oh, tu te rends compte? C'était vraiment pour nous un signe du ciel, hein, que Osborne me dit ça. Et alors, quelques temps après, des hommes d'affaires bien intentionnés ont profité que Bill William était parti en congé missionnaire pour fermer Tinchallange. Ils nous ont tous foutu la porte comme des malpropres, alors qu'on avait quand même donné 7 ans de notre vie bénévolement. Merci les hommes d'affaires chrétiens, je vous aime beaucoup. Ouais, mais enfin ils ont bien fait de me foutre à la porte. Enfin ils ont foutu à la porte tout le monde, hein, du jour au lendemain. C'est charmant. Oh, mais moi, les chrétiens, oui, bon, voilà, quoi. Donc, avec quelques frères et sœurs de Tinchallange, on a décidé de vivre ensemble. On a créé notre première communauté, comme j'habitais le Perreux, nous habitions le Perreux, on a créé notre première communauté au Perreux. Et puis ensuite, on l'a arrangé, 4 ans après, on l'a vendu le double. Hein? Tout le monde disait, c'est pas possible. Je dis, tout est possible. On a vendu le double. Et puis ensuite, on a acheté une deuxième communauté à Sarcelles. Et puis là aussi, on l'a arrangé. Là, c'est là qu'on a connu Philippe, Marie-Claire. Marie-Claire, c'était déjà avant, non? Je sais plus.
Je vous connaissais avant.
Et Dominique, c'était au Perreux déjà, hein? Je crois, hein? Donc je suis en bravo. C'est vieux, ça fait plus de 40 ans
Moi, je
maintenant.
vous ai connu au Pérou.
Au Perreux.
Je suis venu au Pérou parce qu'Isabelle,
Il y avait Isabelle, il y
c'est
avait
Isabelle.
Isabelle, ta sœur. Donc, on achète Sarcelles, et puis on a fait des travaux, on a transformé le garage en salle à manger, on en a fait une belle maison, et puis on l'a vendue. Et elle était grande, alors personne ne la voulait parce qu'elle était trop grande, et puis finalement, c'est notre conseiller juridique et fiscal qui l'a achetée. Alors, vous voyez, Dieu dirige bien les choses, il s'appelait Lévi. Il s'appelle toujours Lévi. Et puis, on a acheté le château. Le château dans lequel nous avons vécu 26 ans, en prenant avec nous des garçons, des filles, des gens qui avaient des problèmes de drogue, de prostitution, de vice, de toutes sortes de trucs. Et on les a aidés. Et puis, au bout de 26 ans, il y a eu une division. Il y en a qui nous ont fait jouer des sales tours. Alors, moi, vous savez, moi, je cherche pas à midi à 14 h, hein. Ah bon, tu veux me kikiner? Eh ben, je vends. Et puis, on a vendu. On est parti. Et voilà pourquoi maintenant, on est dans le sud-ouest au soleil. Et on est bien. Le lundi au soleil. Mais pas que le lundi. Et maintenant, c'est tous les jours. Sauf aujourd'hui, c'est un peu grisaille. Donc, la quatrième communauté dans le sud-ouest. Pendant tout ce temps, eh bien, j'ai fait des missions un peu partout. J'étais en Inde, j'étais en Afghanistan, j'étais au Pakistan, j'étais dans 70 pays, et partout, toujours, tout le temps, des guérisons, des guérisons, des guérisons, des miracles, des guérisons, J'étais en Inde, j'étais choqué par les castes. Les chrétiens pentecôtistes ne voulaient pas recevoir les sous-castes. Et moi, j'ai évangélisé évidemment les sous-castes. Pas pour embêter les pentecôtistes, mais parce que c'était les pauvres parmi les pauvres. Et quand je suis arrivé devant l'église avec mes sous-castes, ils m'ont dit, non, on ne les veut pas. Je dis, vous ne les voulez pas? Vous avez des malades dans votre église? Oui. Vous savez qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Oui, Michel, justement, on est tout content. Je dis, ben, moi, je ne rentre pas. Je ne rentre pas dans votre église s'il n'y a pas les sous-castes avec moi. Ils ont discuté 5 minutes, on est rentré, les sous-castes sont rentrés, et j'ai pu prêcher là-dedans. J'ai vu que partout, les chrétiens, mon Dieu. Mais il n'y a pas que les chrétiens, c'est l'humain, c'est l'humain, l'humain, c'est. Et puis 20 ans d'Afrique, 20 ans d'Afrique, toujours des miracles, des miracles, des miracles, des conversions, des centaines de guérisons, des centaines de conversions. Et puis on ne peut pas aller en Afrique sans créer de l'humanitaire. Donc avec les frères qui sont venus avec moi, on a créé de l'humanitaire, on a fait des forages, on a fait une école, on a fait un orphelinat, et puis Maintenant, je suis trop vieux. C'est Philippe et Marie-Claire qui s'occupent de ça. C'est eux qui font l'humanitaire et surtout au Togo, ils s'occupent de l'eau. Ils cherchent de l'eau pour les villages là où c'est les plus pauvres de pauvres de pauvres. Et ben ça marche. N'oubliez pas de faire des dons. Des dons, vous savez, c'est pas parce que ben j'ai prié pour vous, ça suffit pas. Faut faire des dons. Hein. Les dons, c'est l'argent. Voilà, ça y est, voyez. Je parle d'argent. Et demain, eh bien, ça fera 58 ans de vie chrétienne. 58 ans de vie chrétienne. Je me rappelle toujours, Raphaël, il disait, on peut regretter de s'avoir marié, mais on peut pas regretter d'avoir connu Jésus. Ben, moi, je me regrette ni l'un ni l'autre. Je regrette pas d'être marié, je regrette pas d'avoir connu Jésus. Ma vie, c'est moi qui l'ai choisie. Avec la guidance du Saint-Esprit, mais c'est moi qui ai choisi. C'est pas, j'ai pas attendu que les choses me tombent tout. Non, je suis un homme d'action, mais quand une porte s'ouvre, je prie pas 150 ans, je jeûne pas 150 ans, je vois une porte qui s'ouvre pour faire quelque chose, je le fais, puis c'est tout, puis voilà. Donc, comme la grande Sylvie Vartan, je dis, ma vie, c'est moi qui l'ai choisie. Voilà, ça embête encore ceux qui n'aiment pas le rock'n'roll. Alors, c'est une chose dont je me fous. Et puis voilà, donc j'ai encore mes défauts, vous voyez, toujours. Mais je marche de progrès en progrès. Il y a un verset que j'aime bien, c'est dans 1 Thessaloniciens 4:1, où il est dit... Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous, c'est l'apôtre Paul qui dit, qui parle, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Et je progresse encore, je fais des progrès, avec l'aide de Dieu, avec l'aide des frères et sœurs. Et il y a deux choses dont je suis fier. La première, c'est j'ai qu'une parole. Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. On trouve ça dans Matthieu chapitre 5, verset 37. Ben, j'ai qu'une parole. Si je dis quelque chose, je l'ouvre pas après. Et puis la deuxième chose dont je suis fier, c'est que je ne trahis pas les gens. Moi, je trahis pas les gens. J'ai été trahi, je sais pas combien de fois, mais moi, je trahis pas les gens. C'est deux choses dont je suis fier, je suis content. Jésus a fait son œuvre en moi et continue à la faire. Et j'aime beaucoup la vie que j'ai. Et là, aujourd'hui, on va fêter les anniversaires encore. Et j'aime bien la vie communautaire. Je ne me vois pas vivre autrement. Je ne sais pas comment ils font les chrétiens en randonnant dans leurs églises. Moi, ça me dépasse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Et puis que vous puissiez vous servir de ce témoignage pour glorifier Dieu. J'étais revoir M. Pache, il y a quelques années en arrière, avec un frère. Alors je tape à la porte. Il ouvre la porte. Il a l'odeur de pisse qui me saute à la gorge. Il y avait toujours autant de chats. Il me dit, ah, c'est toi ma lumière. Je dis, comment? Il me dit, oui, j'ai vu que j'allais être visité par une étoile aujourd'hui. C'est toi alors? Entre. Alors j'entre. Il me dit, qu'est-ce que tu as à me dire? Alors j'y raconte comment je me suis converti. Il me dit, écoute, je suis très content pour toi, mais pour moi c'est trop tard, j'étais trop loin avec toutes ces histoires de... Non, je peux pas, c'est trop tard pour moi. Je dis, monsieur Pache, c'est jamais trop tard, Jésus vous aime. Non, n'insiste pas, on va rester là, ça va. Alors on est parti, puis on l'a laissé sous les fers. Puis j'ai appris qu'il est mort quelques temps après. Il y a 2-3 ans, on est retourné de nouveau. Ça avait changé de propriétaire. Il ne savait même pas que c'était M. Pache qui vivait là. Il ne connaissait rien de l'histoire. Alors on lui a donné mon livre qui s'appelle Oracle, que vous pouvez trouver sur Révélation Bible, sur la première page, révélationbible.fr, en haut à droite. Ça s'appelle Oracle, je crois. Je ne sais plus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée, et puis à bientôt. Au revoir.